Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour et bon samedi. Il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris. Vous écoutez SBS French, votre programme en français de la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat. Je suis très heureuse de passer une heure entière en votre compagnie. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, le journal suivi des sports et, comme tous les samedis, la rétrospective. Léo Roussel nous fait voyager aujourd'hui au 2 juillet 1964 pour nous parler de quoi ? Eh bien, vous le saurez en deuxième partie d'émission. Restez sur SBS French, on commence d'abord avec le journal. À la une de l'actualité de ce samedi 2 juillet, opération réconciliation entre Anthony Albanese et Emmanuel Macron. Le Premier ministre australien renoue les liens avec Paris 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins. La baisse du prix d'une consultation standard chez le médecin généraliste, 62 centimes de moins pour une visite à 90$. Le gouvernement s'en félicite, les médecins voient rouge. Une quatrième arrestation dans le cadre de l'enquête sur la mort de 53 migrants abandonnés dans un camion au Texas. Le chauffeur du semi-remorque encourt la peine de mort. Et enfin du sport, première étape du Tour de France hier. Un parcours de 13 km qui a vu s'élancer près de 180 coureurs. Qui a remporté le premier maillot jaune ? Réponse dans le journal des sports. On ouvre ce journal avec la visite du Premier ministre australien au Palais de l'Élysée. Anthony Albanese et Emmanuel Macron ont déjeuné ensemble hier midi. Sourire et poignée de main sous le soleil parisien, les deux hommes se sont montrés complices dans cette opération réconciliation. Anthony Albanese est venu tenter de recoller ce que son prédécesseur avait cassé, la confiance et le respect mutuel entre Paris et Canberra après avoir rompu le contrat des sous-marins en septembre dernier. Nicolas Fellman, Radio France Internationale.
Dans la cour de l'Élysée, Emmanuel Macron répond à un journaliste. Pourquoi parler du passé, dit le président français. Parlons plutôt de l'avenir. Lui n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Lui, c'est Anthony Albanese, nouveau premier ministre australien. Grand sourire et poignée de main ferme. Oubliez l'annulation du gigantesque contrat de 56 milliards d'euros sur l'achat de 12 sous-marins français. Oubliez aussi les tensions de ces derniers mois et donc place à l'avenir.
Ma présence ici représente un nouveau départ dans les relations entre nos deux pays. Les relations de l'Australie avec la France comptent, la confiance, le respect et l'honnêteté comptent. C'est ainsi que j'aborderai nos relations.
D'autant que le Premier ministre travailliste et le président français partagent un agenda commun, même fermeté face aux avancées de la Chine dans la région Indo-Pacifique, mêmes objectifs pour lutter contre le changement climatique. Mais Emmanuel Macron voit plus loin.
Ce renouveau de la relation doit aussi nous projeter vers de nouveaux horizons, le spatial, les pôles, en particulier l'Antarctique, les fonds sous-marins, le numérique.
Autre dossier au ralenti ces derniers mois, le projet d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Dans un communiqué commun, les deux pays s'engagent à soutenir les négociations en cours.
À Canberra, le nouveau gouvernement est à pied d'œuvre pour soulager les contribuables face à l'augmentation du coût de la vie. Le Premier ministre par intérim, Richard Marles, a annoncé que malgré une augmentation du salaire minimum de 5,2%, eh bien, d'autres aides fédérales allaient être mises en place. On l'écoute.
We took to the election a range of measures which would go to the question of cost of living relief. I mentioned wages, but we're looking at having more affordable childcare. We're looking at putting in place free TAFE for those who are studying in an area of skill shortage.
On le disait en titre et peut-être vous en êtes-vous déjà rendu compte, une consultation chez le médecin généraliste coûte moins cher qu'avant, 62 centimes de moins pour être exact. La part prise en charge par Medicare vient d'augmenter de 1,6%. Le remboursement d'une consultation standard à 90$ est donc désormais de 39,75$ contre 39,13$ jusque-là. Un geste sans grand intérêt, déplore le docteur Charlotte Esp du Royal Australian College des médecins généralistes. Écoutez.
Government is well aware that the rebate means nothing, but you know it's there, so it looks like they're doing something in an upward direction. We know that Medicare rebates are unlikely to be funded by either side of government because they have so eroded the Medicare rebate over such a long period of time that to actually be able to bring it back into line with what is needed is far too much money now.
Alors que la France vient de terminer sa présidence tournante à la Commission européenne, eh bien c'est au tour de la République tchèque de prendre les rênes. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Peter Fiala, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déclaré qu'en dehors du conflit en Ukraine, eh bien la sécurité énergétique était le sujet le plus important auquel l'Union européenne allait être désormais confrontée.
The most important topics. First of all, it's certainly in this presidency the whole energy topic. And if we stick together, and I'm absolutely confident that we will, we can make it in a very positive way, so that one day looking back, we will see that the success of the Czech presidency made it possible to overcome this difficult moment. It is a tough time now. Russia is deliberately cutting us off partially of Russian gas. And we have to be prepared. And therefore, together with the Czech presidency, we are preparing emergency plans for Europe.
Ursula von der Leyen qui rappelle que l'enjeu le plus important est bien sûr la guerre en Ukraine. Le bilan s'alourdit dans les frappes qui ont touché le sud du pays il y a quelques jours. Au moins 21 personnes ont été tuées dans le bombardement d'immeubles près d'Odessa. Ces tirs de missiles ont été portés depuis la mer Noire et interviennent quelques jours après le retrait des troupes russes de l'île au Serpent, un caillou de 17 hectares au large d'Odessa conquis par la marine russe dès les premiers jours de guerre il y a 4 mois. Reportage de Christophe Paget pour RFI.
Oui, les Russes ont tiré 2 missiles à partir d'un avion venu de la mer Noire. Le premier a touché vers 1h du matin un immeuble résidentiel de 9 étages dans la région de Bilgorod-Niester, 80 km au sud d'Odessa. Une partie de l'édifice s'est effondrée. Le second missile tiré par le même avion a touché un complexe hôtelier non loin de là. C'est ce qu'ont indiqué les autorités ukrainiennes. Ces frappes adviennent alors que l'OTAN, en refermant son sommet de Madrid hier, a promis son soutien indéfectible à Kiev. Plusieurs États membres ont d'ailleurs annoncé de nouvelles aides militaires. Plus d'1 milliard d'euros pour le Royaume-Uni, 800 millions de dollars pour les États-Unis. Moscou voulait peut-être aussi, avec ses attaques, marquer les esprits après la perte hier de l'île aux serpents. Vous l'avez dit, une île située à l'ouest d'Odessa, une île stratégique pour la maîtrise des routes maritimes. Les militaires ukrainiens affirment que les Russes se sont retrouvés dans l'incapacité de résister au feu de notre artillerie, de nos missiles et de nos frappes aériennes. Pour le président Zelensky, cette perte limite considérablement l'action des occupants. La Russie, elle, parle d'un retrait en signe de bonne volonté, ses objectifs ayant été atteints.
Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que l'armée russe a commencé à construire des appartements résidentiels à Mariupol, en Ukraine donc. Des appartements témoins peuvent déjà être visités. Oleg Pleshkin supervise les travaux, on l'écoute.
Construction is being carried out by the military construction complex of the Ministry of Defense. To date, we have more than 500 people working at the facilities and more than 80 pieces of equipment involved. Work is being carried out at an accelerated pace. Today, we are already installing utility connections outside. We're conducting cast-in-place works, working on facade, carrying out the fit-out works. Work is underway at 6 construction sites, as I said, and we plan to start working at all 12 construction sites by the middle of the month.
Toujours dans l'actualité internationale, les suites de la macabre découverte au Texas d'un camion transportant plus de 50 migrants décédés. Le processus d'identification des victimes est toujours en cours. On apprend qu'une quatrième personne a été interpellée et inculpée. Le chauffeur du camion, s'il est reconnu coupable, encourt la peine de mort. Son semi-remorque avait été abandonné dans une région éloignée de San Antonio. Les enquêteurs pensent que les températures à l'intérieur du véhicule ont pu atteindre plus de 65 degrés. L'activiste Carlos Eduardo Espina déplore le manque de considération à l'égard des migrants.
I'm so mad because something can be done and something can be. There's enough time to prevent the next migrant from dying, but it seems for the last 100+ years there's been no interest in doing that. Why? Because those who make the decisions are never going to experience that themselves.
Les océans sont en danger, les Nations Unies tirent encore la sonnette d'alarme. Les pays ne mettent pas assez vite en place des mesures pour contrebalancer les effets du changement climatique. C'est ce qui ressort d'une conférence organisée durant 5 jours à Lisbonne, à laquelle participaient plus de 6 000 hauts fonctionnaires, scientifiques et militants de plus de 120 pays. On écoute le président portugais qui co-organisait cet événement avec le Kenya.
We wanted, together with Kenya, to make from this conference at a time of pandemic and war, a sign of peace. Peace with nature and peace among people. A symbol of multilateralism in the faces of temptation of unilateralism. A moment of mobilization and not of contemplation. And we think, at the bottom of our hearts, that in such a difficult moment, lived throughout the world, we did it.
Et parallèlement, le Bureau de météorologie australien met en garde une fois de plus le New South Wales. L'État est à nouveau sous la menace de nouvelles inondations dans les prochains jours. Il pourrait tomber jusqu'à 20 cm de pluie à certains endroits, dont Sydney.
What we're seeing is the formation of a coastal trough off the New South Wales coast. We know these are quite dangerous systems and they've been known to produce some widespread flooding in the past, and that's certainly on the cards for the next few days. So we're expecting some locations over the next few days and even tomorrow could see what they would normally see in the entire month of July fall in one day. So certainly heavy rainfall, and there'll certainly be impacts from that starting tomorrow.
On vient d'entendre Jane Golding, elle est prévisionniste au Bureau australien de météorologie. Des pluies à Sydney donc, hein, et pour le reste du pays, on commence par Perth, il fait beau, 20 degrés. Adélaïde, nuageux, 14 degrés. 13 degrés à Melbourne, nuageux également. Hobart, 12 degrés. Des averses à Canberra, comptez 10 degrés. Il fait 16 à Brisbane, 26 à Cairns, malgré des nuages. Nuageux à Darwin, 29 degrés. Le rappel des titres. Opération réconciliation entre Anthony Albanese et Emmanuel Macron. Le Premier ministre australien renoue les liens avec Paris 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins. La baisse d'une prix d'une consultation standard chez le médecin généraliste, 62 centimes de moins pour une visite à 90$, les médecins voient rouge. Et enfin, une 4e arrestation dans le cadre de l'enquête sur la mort de 53 migrants abandonnés dans un camion au Texas.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal consacré à l'actualité de ce samedi 2 juillet. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite le reste de l'émission et le journal des sports. Il sera bien sûr question de la première étape du Tour de France. Le journal des sports de ce samedi 2 juillet au menu du cyclisme, du tennis et du football. Et c'est parti pour le Tour de France 2022 qui s'était lancé hier de Copenhague au Danemark. On écoute le président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, le français David Lapartient.
Le cyclisme est en vrai boom partout dans le monde. Alors le Tour de France ne pourra pas s'exporter partout dans le monde, mais en tout cas son image et ce qu'il représente s'exporte partout dans le monde. Et nous avons la chance dans le vélo d'avoir un événement de taille mondiale qui est le Tour de France. Alors parfois il peut aller un peu plus loin de ses bases comme ici et c'est fabuleux, mais à tout le moins il permet de rayonner partout. Et l'Afrique, c'est pour nous aussi un terrain de jeu extraordinaire. On va faire les championnats du monde en 2025 et donc ce sera sans doute aussi un grand succès populaire.
Presque 180 coureurs au départ de cette première étape et c'est le Belge Yves Lampaert qui crée la surprise lors du contre-la-montre inaugural et remporte le premier maillot jaune, Thomas de Saint-Léger, RFI.
Des cuisses de mammouth qui écrasent les pédales, l'agilité d'un chat pour passer entre les flaques d'eau, Yves Lampaert avait le profil pour chanter sous la pluie de Copenhague, mais le garçon est du genre discret, équipier modèle, il gagne rarement, alors ce succès à 31 ans, maillot jaune en prime, le Belge a du mal à y croire.
C'est fou, jamais expecté ça, Et c'est plus de rêve. Ce matin, j'ai pensé top 10, ça va être très bien pour moi. Mais pour gagner la première étape de Tour de France, prenez le maillot jaune, c'est fou, c'est vraiment fou pour moi.
En bon flandrien, Lampaert aime la pluie, le vent et les pavés. Une sainte trilogie au programme des prochaines étapes. Alors peut-il garder ce maillot jaune jusqu'au premier massif montagneux? Son coéquipier Florian Sénéchal y croit.
Lampé, c'est aussi un coureur de classique, il sait s'il est devant, il ne va pas être piégé. On a une équipe pour ça, donc voilà, demain on va jouer des coudes et on sera à l'avant.
Le ton est donné pour cette deuxième étape annoncée nerveuse avec des passages de pont très spectaculaires, surtout si le vent s'en mêle.
L'Australien Ben O'Connor, quatrième du Tour 2021, termine lui à une minute du vainqueur. Mais le champion de Perth relativise, l'important était de finir l'étape sans tomber à cause de la pluie.
Bien sûr, c'était nouveau pour tout le peloton avant, donc voilà, c'est plus pour tout le monde, voilà, c'est le même pour tout. C'est le premier jour et la deuxième étape, demain, bien sûr, c'est juste le même niveau de nervousness, tu vois, donc.
Du côté bleu-blanc-rouge, eh bien Benoît Cosnefroy est l'un des favoris, il est content d'être sur le Tour, on l'écoute.
C'est cool de lancer l'aventure à ce Tour de France, ça fait du bien aussi, ça fait 2 jours qu'on est ici, on a envie que ça parte, donc là au moins c'est parti, et voilà, concentré sur un effort seul, ça évite d'être trop stressé sur cette première étape et les choses sérieuses vont commencer demain.
Enfin, pour conclure cette page consacrée au cyclisme, on écoute Vincent Lavenu, le directeur sportif de l'équipe AG2R Citroën, il se projette déjà sur la deuxième étape.
Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de gros exploits de l'équipe, mais la satisfaction, c'est Bob Jungels qui a été à un bon niveau aujourd'hui.
Et cette étape de demain, qui fait déjà un peu peur à tout le monde.
Oui, cette étape de demain, évidemment, amène un certain stress, mais ce sera à nous de l'aborder avec enthousiasme, avec confiance, avec détermination. Voilà, donc comme toutes les autres équipes savent que demain, c'est une étape importante. Hein.
Et on le rappelle, le Tour de France est à suivre tous les jours sur SBS et SBS On Demand. Un mot de tennis à présent avec le tournoi de Wimbledon. Et du côté des dames, la Française Caroline Garcia écarte Chui Zhang au troisième tour lors d'un match serré en 2 manches, 7-6-7-6. Caroline Garcia qui rejoint les 8e de finale. Victoire également pour la numéro 3, Ons Jabeur. La Tunisienne a facilement dominé la Française Diane Paris 6-2-6-3. On écoute Ons Jabeur qui a délivré un message poignant juste après sa victoire.
I always love life, you know, it's not just because of, you know, when you do good, but I like to inspire some new kids, young women, young men who wants to be here one day, you know, from my country, the Arab world, the African continent, you know, it's a pleasure for me and hopefully I'm sending a great message.
Chez les hommes, on note la défaite du Français Hugo Humbert en 4-7, la victoire pour l'Espagnol Carlos Alcaraz, ainsi que celle facile de Novak Djokovic contre Miomir Kecmanovic. Le numéro 1 mondial a terrassé son compatriote en 3-7, 6-0, 6-3, 6-4. On écoute Novak Djokovic.
Yeah, again, a very good start, as in my previous match. I know Kecmanovic's game pretty well. We train a lot. We never faced each other on grass. Obviously, it's not his preferred surface for his game, and I had the right game plan. I knew what I needed to do. So, obviously, it helps a lot if you start off the match very well. And the way I played first set was great. Maintained that level pretty much throughout the entire match. So, just overall, very pleased.
Et toujours en tennis, on apprend que Nick Kyrgios a été condamné à une amende de 14 500 $ australiens pour avoir craché en direction des spectateurs lors de son dernier match. Le joueur ne regrette pas son geste et explique avoir réagi à un manque de respect d'une personne dans les gradins. L'Australien qui avait gagné le match 6-2, 6-3, 6-1 contre Filip Krajinovic va maintenant affronter Stefanos Tsitsipas. Nick Kyrgios a annoncé abandonner les matchs en double pour se concentrer uniquement sur la compétition en simple et il se refuse à commenter son comportement. On l'écoute.
Why would you be asking me a question about 2 days ago? Is it because you have no story for today?
No, I'm asking you because there's a current investigation.
But I played Filip Krajinovic today. Do you not want to know how I played today?
Well, I saw you play today.
Why fantastic. Don't you ask me a question about it?
Because there's an investigation.
Okay. Are you investigating it personally?
No.
So why do you care?
Because it involves you.
Okay.
And
I'm still in Wimbledon right now.
Exactly.
So let's talk about that.
So why don't you want to talk about it?
Because I've spoken about it.
On termine avec un mot de football et la démission surprise de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille un an avant la fin de son contrat. Jorge Sampaoli explique ne plus être sur la même longueur d'onde que les dirigeants du club phocéen, Tom Rossi, RFI.
Comme son mentor Marcelo Bielsa il y a 7 ans, Jorge Sampaoli surprend en quittant l'OM, et ce, à l'aube d'une nouvelle saison et après un seul exercice complet à Marseille. En cause, des divergences sur le marché des transferts, comme l'a confirmé le président de l'OM, Pablo Longoria.
Mercato, toujours c'est comme les cadeaux de Noël. On attend les cadeaux de Noël avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'émotions. Ça rentre toujours dans des moments peut-être de friction, pas personnel. C'est surtout des frictions professionnelles.
Car pour l'instant, seuls deux défenseurs français méconnus ont signé. Pas de quoi satisfaire le bouillant coach argentin. Mais patience, le mercato est long, tempère le président. Pas en colère, ni abattu.
Dans les moments que quelqu'un est sincère, jamais c'est un échec. Il a un respect pour le club, que c'était énorme. C'est une question aussi de normalité et d'honnêteté de nous séparer au commencement de la saison. C'est mieux maintenant, nous laisser comme des amis, nous laisser dans de très bonnes relations. Ça serait injuste pour le prochain coach de se retrouver dans une équipe construite pour Jorge Sampaoli. Je crois que c'est une question aussi des responsabilités de tout le monde.
Et Pablo Longoria l'assure, l'identité du prochain entraîneur sera connue au plus tard lundi.
Voilà messieurs, dames, pour l'actualité sportive de ce samedi 2 juillet. Nous sommes le 2 juillet, comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective signée Léo Roussel. Il nous fait voyager aujourd'hui en 1964. Que s'est-il passé le 2 juillet 1964 ? Réponse tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Nous sommes le 2 juillet et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons remonter dans les années 60 aux États-Unis. Le 2 juillet 1964 était signé le Civil Rights Act. Le Civil Rights Act, c'est une loi historique qui mettait officiellement un terme à la ségrégation raciale et aux pratiques discriminatoires dans le pays. Retour sur la lutte pour la signature d'un texte qui a marqué l'histoire des États-Unis avec Léo Roussel et des archives sonores de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Cet extrait de discours est culte, à la fois si calme, posé, mais surtout porteur d'espoir. Le 28 août 1963, lorsqu'il prononce ces mots, le pasteur Martin Luther King a un rêve, comme il le répète, pour les États-Unis, l'égalité, les mêmes droits pour tous, peu importe la couleur de peau. Et ce rêve, il passe par l'abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis. La ségrégation raciale, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus violent, discriminatoire, de différenciation des droits entre les habitants d'un pays sur la base de la couleur de peau, sur des critères raciaux. Alors concrètement, aux États-Unis, ça se traduit par une séparation marquée des Noirs américains, relégués comme des citoyens de second rang par rapport aux Blancs pendant près d'un siècle, entre 1876 et le 2 juillet 1964, date de la signature du Civil Rights Act qui met un terme aux lois ségrégationnistes. L'histoire américaine, elle est marquée par cette séparation violente entre les Noirs et les Blancs. D'abord par l'esclavagisme qui va finir par être aboli au terme d'un processus laborieux. Il faut rappeler qu'un siècle avant le discours de Martin Luther King, le pays est encore en pleine guerre civile. La guerre de sécession qui oppose d'un côté les États du Nord du pays, majoritairement abolitionnistes et qui souhaitent donc voir l'esclavage disparaître, et de l'autre les esclavagistes, les États confédérés au sud du pays. La guerre est remportée par les nordistes et l'esclavage est aboli en 1865, mais la fin du conflit ne signifie pas pour autant l'accès à l'égalité pour les Noirs américains. Après la période dite de la Reconstruction aux États-Unis, qui voit la réintégration des États sécessionnistes du Sud dans l'Union, sont instaurées les lois Jim Crow. Ces lois, aussi appelées Code Noir, ce sont elles qui rendent légale la ségrégation raciale dans tout le Sud des États-Unis à partir de 1876. À la même période apparaissent également des groupes terroristes et suprémacistes blancs comme le Ku Klux Klan qui soutiennent l'idée d'une race blanche supérieure. Dans la vie de tous les jours, les Noirs doivent emprunter des bus différents, boire dans des fontaines à eau différentes, avoir des lieux de vie différents de ceux des Blancs. En clair, une séparation totale et des violences commises à l'encontre de ceux qui tenteraient de briser ces règles. Alors ce qui va rendre possible le progrès vers plus d'égalité, c'est le combat de personnes qui sont aujourd'hui célèbres. L'histoire d'un mouvement américain pour les droits civiques qui va se renforcer. Dès 1909 est créée la National Association for the Advancement of Colored People. D'autres associations et groupes de défense des droits verront le jour, mais il faudra surtout attendre les années 1950 pour voir la lutte pour le droit des Noirs prendre de l'ampleur. En 1954, l'arrêt Brown de la Cour suprême condamne la ségrégation raciale en milieu scolaire et l'année suivante, en 1955, à Montgomery, dans l'état d'Alabama, au sud du pays, la désormais célèbre Rosa Parks, une afro-américaine de 42 ans, militante contre la ségrégation et en faveur des droits civiques, refuse de laisser sa place à un blanc dans un bus. Elle est arrêtée, jugée, mais vient de lancer un nouveau mouvement clé de la lutte contre la ségrégation. Un jeune pasteur va alors mener un boycott contre les bus de Montgomery, Martin Luther King. Il invite les Noirs de la ville à ne plus emprunter les bus. Il popularise aussi à ce moment les théories de non-violence et de désobéissance civile, aujourd'hui encore si utilisées lors de mouvements sociaux. Le boycott va durer 381 jours jusqu'à ce que la ségrégation dans les bus soit rendue anticonstitutionnelle par la Cour suprême en 1956. L'année suivante, c'est l'affaire des Little Rock Nine, les 9 de Little Rock. Un groupe de 9 lycéens noirs inscrits dans une école publique de l'Arkansas, mais qui vont se voir empêchés d'y accéder. Le président de l'époque, Eisenhower, enverra finalement l'armée pour permettre à ces enfants noirs de pouvoir fréquenter une école réservée aux blancs. Au début des années 1960, le nouveau président des États-Unis, Kennedy, affiche son intention de lutter contre les discriminations raciales à l'embauche. Il met notamment en place un processus de discrimination positive. Et en 1963, la Marche pour l'emploi et la liberté à Washington le 28 août confirme que le mouvement américain pour les droits civiques progresse. Martin Luther King prononce son célèbre discours et entre 200 000 et 300 000 personnes prennent part à la marche. Alors le président Kennedy est en revanche assassiné en novembre 1963, mais le combat parvient à se poursuivre et son remplaçant Lyndon B. Johnson fait voter une série de lois sur les droits civiques pour faire disparaître toute pratique ségrégationniste ou discriminatoire aux États-Unis. Le 2 juillet 1964 est donc signé le Civil Rights Act qui met alors un terme aux lois Jim Crow, aux lois ségrégationnistes. Une loi qui va donc ouvrir vers d'autres avancées sociales pour les Noirs américains. Le Voting Rights Act mettra notamment l'année suivante fin aux discriminations raciales pour l'obtention du droit de vote aux États-Unis. Alors si ce Civil Rights Act de 1964 met un terme aux lois Jim Crow, il ne va pas pour autant mettre fin à la lutte pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis. Plusieurs militants seront assassinés dans les années qui suivent, comme Malcolm X ou encore Martin Luther King en 1968.
Martin Luther King avait un rêve, voir les enfants noirs et les enfants blancs assis sur les mêmes bancs dans la même école. Assassiné le 4 avril 68 à 39 ans, il ne verra pas son rêve se réaliser. Tout au long des années 60, le pasteur noir a dirigé les luttes pour l'égalité des droits aux États-Unis. Sa mort sera suivie d'émeutes, d'une extrême violence à Washington, Chicago. Rapidement, le pays est à feu et à sang. 50 000 soldats et gardes nationaux sont mobilisés pour rétablir l'ordre.
Aujourd'hui encore, les États-Unis restent marqués par cette période de l'histoire et la communauté afro-américaine continue de se battre vers davantage d'égalité. En témoigne le combat du mouvement Black Lives Matter contre le racisme systémique dans la société et notamment dans la police. Les suprémacistes blancs demeurent, eux, une vraie menace pour la communauté noire. en mai dernier dans un quartier majoritairement afro-américain de la ville de Buffalo. Un homme se revendiquant suprémaciste blanc et adepte de la théorie du grand remplacement a notamment tué 10 personnes dans un supermarché. 8 d'entre elles étaient noires.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Les chiffres du déplacement forcé dans le monde atteignent un nouveau record et confirment une tendance à la hausse depuis une décennie, selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous en avons discuté avec la porte-parole Céline Schmitt, interview.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, vient de publier un rapport sur les déplacements forcés à travers le monde en marge de la Journée mondiale des réfugiés célébrée tous les 20 juin. C'est l'occasion pour les Nations Unies de rendre hommage aux personnes forcées de fuir les conflits, la violence, les persécutions, toujours en quête de sécurité. La situation, on le voit, est alarmante. Les chiffres du déplacement forcé dans le monde atteignent un nouveau record. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Céline, bonjour.
Bonjour.
Ce rapport publié confirme une tendance à la hausse depuis une décennie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, effectivement, c'est une situation qui est alarmante, qui demande de l'action. Ce sont maintenant plus de 100 millions de personnes qui sont déracinées dans le monde à cause de la violence, à cause de persécutions, à cause de violations de droits humains. Plus de 89 millions de personnes qui étaient déracinées à fin 2021, donc fin de l'année dernière, ce qui était déjà une augmentation de près de 8% par rapport à fin 2020. Mais encore, en ce début d'année, ce chiffre a augmenté et la barre symbolique des 100 millions de déplacés a été dépassée du fait de la guerre en Ukraine, du déplacement d'Ukrainiens à la fois dans le pays, dans les pays voisins, mais aussi de nouveaux déplacements dans d'autres régions du monde, comme par exemple sur le continent africain, dans la région du Sahel ou en Éthiopie ou en Afghanistan. Donc malheureusement, un chiffre qui augmente chaque année et qui nous interpelle, qui doit interpeller la communauté internationale pour trouver des solutions pour mettre fin au conflit et éviter de nouveaux déplacements.
Et justement, si on fait un focus sur cette guerre en Ukraine qui, bien évidemment, a modifié les chiffres pour cette année, l'offensive russe contre son voisin ukrainien a débuté le 24 février. On s'en souvient, c'était il y a un petit peu plus de 4 mois. Plusieurs millions maintenant d'Ukrainiens ont fui le pays. Est-ce qu'on peut parler de la plus grande crise de déplacement en Europe du siècle ?
Il s'agit en effet de la plus grande crise de déplacement en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la crise la plus rapide. On a collecté les données des autorités des pays voisins et donc ce sont 8 millions de traversées de frontières qui ont été enregistrées de l'Ukraine vers les pays voisins, plus de 5 millions de réfugiés qui sont enregistrés dans des pays voisins pour l'instant, mais ce déplacement a eu lieu en fait dans une période très très courte. Et en ça, effectivement, c'est la crise la plus rapide de ces dernières années. Certains jours, par exemple, il y avait plus de 100 000 personnes qui traversaient la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Ensuite, les chiffres ont été moins importants. Mais même quand on parlait encore de 20 000 personnes qui traversent une frontière par jour, ce sont des chiffres énormes et qui, là encore, demandent rapidement une action d'urgence, mais aussi tout de suite de réfléchir à la protection des personnes et à leur inclusion dans les sociétés dans lesquelles elles arrivent.
Quand on situe l'Ukraine sur une carte et qu'on parle de pays voisins, au final, on parle de l'Europe. Quelle est la place de l'Europe dans l'accueil de ces réfugiés ? Est-ce qu'elle a les moyens de supporter une telle vague de déplacements ?
Oui, et on a vu que c'était possible, même s'il y a des défis. Je remets pas du tout en cause le fait qu'il y ait des défis. Une grande partie des réfugiés, effectivement, sont arrivés en Pologne, mais aussi en Roumanie, en Hongrie, d'autres en Moldavie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de solidarité, à la fois des autorités, les frontières sont restées ouvertes, il y a une grande mobilisation de la société civile, avec beaucoup de personnes qui se déplaçaient, même au niveau des frontières, pour apporter de l'aide. Une mobilisation aussi au niveau des États européens, de la communauté européenne, avec notamment l'activation d'une directive sur la protection temporaire, qui est une directive qui date de 2001, qui permet une protection temporaire à des personnes sur une base collective si il y a une arrivée importante de réfugiés qui fuient une situation, une guerre. Et donc, cette protection temporaire a été activée pour les personnes qui fuient l'Ukraine, ce qui leur permet très rapidement de leur accorder une protection légale, enfin juridique, mais aussi d'avoir accès, par exemple, à l'emploi, d'avoir accès à une de l'aide sociale. Et donc ça, c'était extrêmement important. Et il y a une mobilisation sous l'impulsion de la présidence française de l'Union européenne pour cela. Et donc je disais oui, il y a bien sûr des défis quand un nombre important de personnes arrive dans des pays comme on a pu le voir. Mais il y a eu une mobilisation et on a vu que l'accueil était possible. Et je pense que sur le plus long terme, ce qu'il faut voir aussi, c'est ça, c'est que c'est possible et essayer de tirer en fait les leçons et les bonnes pratiques de ce qui a été mis en place, parce que cette situation demande une réponse, mais d'autres situations dans le monde demandent aussi des réponses, et notamment des crises qui sont plus oubliées, qui sont moins visibles, pour lesquelles il y a aussi eu moins de couverture médiatique, mais qui demandent aussi une action urgente.
Mais alors justement, je vais mettre les pieds dans le plat avec cette question, c'est un petit peu la question taboue, mais est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures en termes d'immigration ? Est-ce que là, les pays européens sont plus indulgents avec cette immigration qui lui ressemble ?
Il y a eu beaucoup de solidarité, effectivement, il y a eu une action. Voyons ce qui a été positif dans la réponse à cette crise, à cette situation. Voyons ce qui a été mis en place et comment est-ce que cela, justement, peut constituer en fait une leçon sur le fait que c'est possible, mais aussi sur les bonnes pratiques qui ont été mises en place. C'est justement aussi l'occasion de parler de la question de l'accueil des réfugiés, d'en parler à un grand nombre aussi, parce que la couverture médiatique de cette crise et de l'arrivée des réfugiés nous a permis justement aussi d'expliquer pourquoi les réfugiés fuient, d'expliquer que les réfugiés fuient dans toutes les zones du monde, fuient pour les mêmes raisons, que les réfugiés fuient les bombes, qu'ils ont fui les bombes en Ukraine, mais qu'ils ont fui aussi des bombes en Syrie ou dans d'autres régions du monde, et que tous les réfugiés fuient à cause de la guerre, à cause de conflits, à cause de violences, qu'ils ont tous les mêmes besoins de protection, qu'ils ont tous d'ailleurs aussi les mêmes rêves, qui sont ceux de vivre une vie en paix, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, et aussi dans l'idéal de pouvoir rentrer chez eux, parce que ce qu'on a beaucoup entendu, mes collègues dans les pays voisins, mais aussi moi en France, en parlant à des personnes qui avaient fui l'Ukraine et en leur demandant « de quoi avez-vous besoin ?», beaucoup nous disaient « on veut que ça s'arrête, on veut la paix, on veut rentrer chez nous ». C'est ce qu'on entend dans beaucoup de régions du monde. Le vœu le plus cher de la majorité des réfugiés, c'est de rentrer chez eux. Donc, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est oui, les accueillir. Tous les réfugiés fuient pour les mêmes raisons et ont besoin de protection. C'est des obligations internationales. C'est un devoir aussi de solidarité. C'est le principe du pacte mondial sur les réfugiés, d'avoir cette responsabilité partagée au niveau mondial. Mais au-delà de ça aussi, ça nous appelle, en fait, ou ça nous interpelle sur le besoin d'agir pour pouvoir trouver des solutions à long terme pour les réfugiés. Parce que oui, l'aide d'urgence, la protection, c'est crucial. Le temps où les réfugiés sont loin de chez eux, ils doivent être protégés. Mais il faut agir aussi pour permettre de trouver des solutions. Et ça fait partie aussi du mandat du HCR. Le mandat du HCR aussi, c'est de travailler avec différents acteurs pour trouver ce qu'on appelle des solutions durables pour les réfugiés. Avec la solution préférée qui est souvent le retour volontaire des réfugiés chez eux, la deuxième solution qui est l'intégration locale, et la troisième qui est une voie légale, qui est la réinstallation pour permettre aux réfugiés les plus vulnérables de voyager légalement vers un autre pays et d'être accueilli par un pays tiers. Ce qu'il faut aujourd'hui, avec ce nombre de personnes déracinées qui ne fait qu'augmenter, c'est travailler pour construire la paix. Et ce rapport statistique qu'on a publié maintenant, mais qui fait état de la situation à fin 2021, est justement aussi un appel à la communauté internationale pour travailler, pour faire la paix. Parce que 2/3 des réfugiés dans le monde viennent de quelques situations. Et c'est déjà sur ces quelques situations qu'il faut travailler pour construire la paix.
Et on parle des réfugiés ukrainiens, souvent qui fuient l'Ukraine. Mais n'oublions pas les personnes qui vivaient en Ukraine sans avoir la citoyenneté, comme beaucoup d'Africains par exemple, qui se retrouvent aujourd'hui en étant réfugiés dans un autre pays et qui ont encore moins de droits que les Ukrainiens. Ça se passe comment spécifiquement dans ce cas-là ?
On a rappelé que toute personne qui fuit l'Ukraine, peu importe ses origines, sa nationalité, doit pouvoir avoir accès à la sécurité, doit pouvoir avoir accès, traverser une frontière pour avoir accès à la sécurité. C'était quelque chose de vraiment crucial. Parce que tous sont impactés par la guerre, ou victimes en fait de la guerre, et tous fuient la guerre. Donc c'était quelque chose de très important. Et l'activation de la directive sur la protection temporaire prévoit que les personnes donc ukrainiennes ou qui étaient résidents permanents en Ukraine peuvent bénéficier de cette protection temporaire, en laissant ensuite la possibilité aux différents États de définir si d'autres personnes peuvent aussi avoir la protection temporaire. Nous avons demandé une application large de cette protection temporaire, mais pour les personnes qui ne pourraient pas avoir cette protection temporaire, ce qui est crucial aussi, c'est qu'elles puissent demander l'asile dans les pays dans lesquels elles se trouvent. Il y a des personnes qui étaient en Ukraine, il y a des étudiants normalement qui ont choisi aussi en fait de rentrer chez eux et où il y a eu un travail qui a été fait avec les consulats de leur pays pour qu'ils rentrent chez eux. Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne bénéficieraient pas de la protection temporaire, doivent pouvoir demander l'asile. C'est un droit et c'est une obligation aussi internationale des États en fait de permettre aux personnes de demander l'asile.
Céline Schmitt, je le rappelle, vous êtes la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
C'était Grand Corps Malade avec sa chanson Voyage en train. Restez sur SBS French. Le reportage que vous venez d'entendre sur les réfugiés, c'était la première partie. La deuxième partie est à écouter dans votre émission de demain présentée par Jean-Noël Ducasse. Ou alors vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité sur notre site internet sbs.com.au/french. Tout de suite, je vous propose de découvrir ce reportage fait par notre collègue Grégory Pless. Un reportage sur la grande barrière de corail qui est en danger de mort. C'est tout de suite.
À bord de ce bateau, c'est bientôt l'heure du grand bain. Les touristes s'équipent en palmes, masques et tuba avant de plonger au large de Magnetic Island, dans le Queensland. Taylor est ainsi en voyage de noces et elle espère en prendre plein la vue. Mais ces vacanciers ont également conscience des dangers qui menacent la grande barrière de corail. C'est le cas par exemple de Raj.
I think it's a really big problem. I think it's something we should all be around combat climate change where we can. I think it's also important that people do come out here and see the reef and get an understanding of what we're protecting as well.
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Barrière de Corail abrite plus du quart de la biodiversité marine mondiale. En termes touristiques, elle rapporte plus de 4,3 milliards d'euros par an et fait vivre plus de 64 000 personnes. Parmi eux, les propriétaires du bateau à bord duquel nous nous trouvons, Stéphanie et Adam Hinks, opèrent à Magnetic Island depuis une trentaine d'années.
This is my home. This is where I live. We rely on guests to be able to come and visit and to see the reef.
Ou du moins, ce qu'il en reste. En mars dernier, le récif a une nouvelle fois subi un blanchissement massif du corail, une source constante d'inquiétude pour Stéphanie Hinks.
When we have a bleaching event, we want to get into the water, we want to see what effect it's had, they're all like our little babies, you know, we want to go and check out every little reef patch.
Ce blanchissement, il est provoqué par des vagues de chaleur marine, un phénomène problématique, mais pas forcément fatal, d'après Dave Wackenfeld. Il est le scientifique en chef de l'autorité en charge de la Grande Barrière de Corail.
Coral bleaching is much like heat stroke in a human. A person can get heat stroke, and as long as they get cooled down quickly enough, they'll be fine. Coral bleaching is exactly the same. It's a stress condition, but just because you get the stress condition doesn't mean that you'll necessarily die.
La situation est jugée suffisamment préoccupante par l'UNESCO pour qu'elle recommande l'an dernier de placer la Grande Barrière de Corail sur la liste des sites du patrimoine en danger. Pour l'éviter, le gouvernement australien a alloué à la protection de la Grande Barrière de Corail un budget de près de 800 millions d'euros sur 9 ans.
About two-thirds of that is to work with farmers to improve land use practices and reduce pollution from agricultural land to the Great Barrier Reef.
Plus de 2500 bœufs sont élevés dans cette ferme de 13 000 hectares où Garlon Moulin depuis plus de 20 ans met déjà en œuvre ces pratiques plus respectueuses de l'environnement que souhaite promouvoir le gouvernement. Elle consiste à accorder autant d'importance à la préservation de l'herbe et de la végétation qu'à l'élevage des animaux.
The grazing principles that we use are loosely based on the big migrating herds in Africa, where the big migrating herds come through, but then they're gone again and the country can recover. And it makes a very big difference to keeping the ground covered and stopping soil erosion.
Ce sont en effet les sédiments, emportés par les pluies et les rivières, qui représentent la première cause de pollution agricole de la Grande Barrière de Corail. Et même si sa ferme se trouve à près de 100 km du littoral, Garlon estime qu'elle a un rôle à jouer.
We do feel a responsibility to the health of the Great Barrier Reef and we do everything we can on our property so that the water that leaves our property is clean.
Plus d'un million de kilomètres carrés de terres agricoles sont désormais régis selon ces principes dans le Queensland, mais pour le professeur Terry Hughes du Centre d'études coralliennes, la pollution agricole n'est pas le problème le plus urgent pour la Grande Barrière de Corail.
That's a great idea to do, but it's not addressing the elephant in the room, which is global warming. In this current year, the Australian government has given more than $11 billion as subsidies to the fossil fuel industry.
Le nouveau gouvernement australien ne compte pas renoncer à cette manne du gaz naturel et du charbon. Mais dans le même temps, il promet de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables. Ce bourdonnement, c'est celui d'un convertisseur électrique. Nous sommes au milieu d'une centrale solaire ouverte en 2018. Ces 40 000 panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité pour 50 000 foyers, soit la moitié de la population de la ville voisine de Townsville. Un secteur en pleine expansion, d'après le directeur des opérations de cette centrale solaire, Dale Watterson.
I think there's a lot of potential for growth in solar in Australia. We have a large land mass here, and as you said, there's plenty of sunshine around. It is a new technology in Australia, and as it develops, I'm sure we'll see more and more solar farms opening throughout the country.
Après une décennie d'immobilisme sous les conservateurs, les travaillistes australiens semblent enfin décidés à agir pour le climat. Mais leurs seuls efforts ne suffiront pas à sauver la Grande Barrière de Corail. Il faudra, pour relever un tel défi, une action globale, d'après Stéphanie.
We are all the custodians of the reefs around the world, and you all play a part in this. To think about coming out, getting under the water, and seeing nothing, that really does scare me.
Selon le dernier rapport du GIEC, si la hausse de la température mondiale excède 1,5 degré, 70 à 90% de tous les récifs coralliens dans le monde disparaîtront.
On se caresse, on se dévore. On s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans, et des alarmes. Pas toujours pas.
C'était un extrait de la chanson « Toi et moi » chantée par Bernard Lavillier. Il est 13h57 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. Opération réconciliation entre Anthony Albanese et Emmanuel Macron. Le Premier ministre australien renoue les liens avec Paris 9 mois après la rupture du contrat des sous-marins. La baisse du prix d'une consultation standard chez le médecin généraliste, 62 centimes de moins précisément pour une visite à 90 $. Le gouvernement s'en félicite, les médecins, eux, voient rouge. Une quatrième arrestation dans le cadre de l'enquête sur la mort de 53 migrants abandonnés dans un camion au Texas. Le chauffeur du semi-remorque encourt la peine de mort. Et enfin, du sport, première étape du Tour de France hier. Un parcours de 13 km qui a vu s'élancer près de 180 coureurs. Et c'est le Belge Yves Lampaert qui crée la surprise lors du contre-la-montre inaugural et remporte le premier maillot jaune.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
C'est la fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Marianne Murat. J'ai été, comme d'habitude, très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Si vous souhaitez réécouter cette émission dans son intégralité ou alors nos chroniques, la rétrospective, les actualités ou bien le journal des sports, vous pouvez vous rendre sur notre site internet sbs.com.au/french, sur notre page Facebook SBS French, Spotify, Apple Music ou encore toutes les plateformes de podcast que vous souhaitez. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain. L'émission sera présentée par Jean-Noël Ducasse. Même heure, même fréquence. Je vous souhaite de passer un très bon samedi, une bonne journée, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.